La dernière fois, j'ai introduit le livre, le troisième de l'Ancien Testament, qui s'appelle le Lévitique et qui fut écrit par Moïse. Je commence aujourd'hui à lire le premier chapitre. L'Éternel appela Moïse et lui dit « Depuis la tente de la rencontre ». Premier verset. Les lois précédentes avaient été soit prononcées aux oreilles du peuple entier, soit adressées à Moïse seul, mais les unes comme les autres, à partir de la montagne de Sinaï. Maintenant que le tabernacle est dressé, c'est de là que Dieu appelle Moïse, et c'est là qu'il lui parle de ce lieu où réside sa gloire. La formule « l'Éternel appela Moïse » n'a été employée jusqu'ici que dans trois circonstances particulièrement solennelles. Premièrement, dans le désert, au pays de Madian, quand Dieu lui adressa la mission de délivrer le peuple. Ensuite, au Sinaï, quand il lui donna les 10 commandements. Et enfin, quand il lui communiqua ses ordres relatifs à la construction et au fonctionnement du tabernacle. Je continue le texte. Parle aux Israélites en ces termes. Lorsque l'un d'entre vous offrira un animal en sacrifice à l'Éternel, il apportera un animal pris parmi le gros ou le petit bétail. Verset 2. Les instructions données dans les trois premiers chapitres de ce livre vont réglementer les sacrifices dès longtemps en usage et qu'Israël offrait spontanément à son Dieu. Plus tard, l'Éternel en instituera d'autres qui n'existaient pas encore et qui auront un caractère absolument obligatoire. Dans ces derniers, le choix de la victime ne sera pas non plus laissé à la volonté de l'Israélite. D'après les prescriptions qui suivent, la victime ne pourra être choisie que parmi les animaux domestiques et seulement parmi ceux qui peuvent aussi servir de nourriture, comme les bœufs, les moutons et les chèvres. Les cerfs, gazelles et daims sont donc exclus, quoi qu'on pût les manger, parce qu'ils n'étaient pas domestiques. Les chameaux et les ânes ne conviennent pas non plus, quoi qu'animaux domestiques, parce que étant considérés comme rituellement impurs, on ne pouvait les manger. Pour qu'il y eût vraiment un sacrifice acceptable, les victimes devaient être la propriété familière de l'Israélite, un animal qui obéit à l'homme, et appartenir à la classe des aliments dont il aurait pu se nourrir lui-même. La raison est que ces animaux préfiguraient le Christ qui s'est rendu obéissant à son Père jusqu'à la mort de la croix. Dans un des évangiles, Jésus dit de lui-même ces paroles. « Mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. » Fin de citation. Et un des prophètes de l'Ancien Testament écrivit de lui, je cite, « On l'a frappé et il s'est humilié. Il n'a pas dit un mot. Semblable à un agneau mené à l'abattoir, tout comme la brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a pas dit un mot. » Fin de citation. Voilà pourquoi un carnivore qui se nourrit en tuant ne peut pas préfigurer Jésus-Christ, parce qu'il est violent de nature. Je continue le texte. Si c'est du gros bétail qu'on offre en holocauste, on apportera un mâle sans défaut et on l'offrira de sa propre volonté à l'entrée de la tente de la rencontre afin d'être agréé par l'Éternel. Verset 3. Cela suggère qu'on devait offrir un holocauste chaque fois que l'on voulait rencontrer l'Éternel pour lui rendre un culte. C'était la seule façon pour le peuple de s'approcher de son Dieu. Les Israélites comprenaient très bien cela, car en Orient, on n'aborde jamais un grand sans lui offrir quelques présents. Parmi le gros bétail, le mâle sans défaut est la victime par excellence. Par sa taille, le taureau a le pas sur les béliers et sur les boucs. Comme mâle, il appartient au sexe fort. Il doit en outre tout naturellement être sans défaut. Autrement, il ne serait pas digne de l'Éternel et du Christ, qui lui était sans faute. De Jésus, un texte du Nouveau Testament dit ceci. Il est saint, pleinement innocent, indemne de tout péché. Fin de citation. Dès avant la plus haute antiquité, on pourrait dire depuis le commencement des temps dans le jardin d'Éden, même les païens ont toujours offert des animaux en parfaite santé à leur Dieu, comme si c'était une règle universelle. Ainsi, Chez les Égyptiens, le prêtre faisait une inspection minutieuse du taureau qui devait être immolé, et lorsqu'il l'avait déclaré impeccable, il fixait à ses cornes avec de la cire un certificat qu'il scellait de son sceau afin d'éviter toute substitution. Dans l'Holocauste, ce qui compte, c'est bien sûr que l'Éternel l'accepte. S'il agrée le sacrifice, il reçoit aussi celui qu'il offre. Les deux vont de pair, naturellement. Même chose en ce qui concerne Jésus-Christ. Son sacrifice a été pleinement accepté par l'Éternel, car sa sainteté et sa justice ont été satisfaites par le sacrifice de la croix. Voilà pourquoi quiconque vient au Père en son nom, dans un acte de foi, est agréé par Dieu. C'est comme s'il s'approchait de son Créateur en offrant un sacrifice parfait, celui du Fils de Dieu lui-même, sauf qu'il a déjà été offert une fois pour toutes. Il faut noter que ce n'était pas la vie parfaite du Christ qui peut venir en aide aux pénitents, mais bel et bien sa mort qui a expié ma faute. La perfection de Jésus ne peut rien faire pour moi, sinon me condamner par comparaison. Sa vie exemplaire me sépare de Dieu tout comme ce voile qui divisait le tabernacle en deux. D'un côté, le lieu saint qui était ouvert aux prêtres, et de l'autre, le lieu très saint où résidait la gloire de l'Éternel et qui était fermé à tous. Lorsque Jésus-Christ mourut, ce rideau se fendit de lui-même de haut en bas, montrant qu'une main céleste invisible l'avait déchiré. L'Holocauste était offert par quiconque le désirait, qu'il soit israélite ou païen, il suffisait de le vouloir. Cette invitation à venir rencontrer Dieu par le biais d'un sacrifice était permanente. De même, dans le Nouveau Testament, Jésus fit un appel similaire lorsqu'il s'écria, et je le cite, « Le dernier jour de la fête, le jour le plus solennel, Jésus se tint devant la foule et lança à pleine voix, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et que celui qui croit en moi boive. » Fin de citation. Que ce soit sous l'administration de l'Ancien ou du Nouveau Testament, Dieu désire qu'on vienne à lui. Mais il y a toujours des conditions à respecter parce qu'il est saint et que moi, je suis souillé. Le dernier point à souligner, c'est que ce sacrifice devait être offert à l'entrée du tabernacle sur l'autel d'airain ou de bronze, et pas ailleurs. Ce n'est pas moi, mais l'Éternel qui pose les conditions selon lesquelles je peux m'approcher de lui. Je peux décider que Dieu sera satisfait si je lui apporte un paquet de bonbons, ou que sais-je encore, mes bonnes actions par exemple. Eh bien, non, ça ne va pas marcher, et voilà ce qu'un prophète de l'Ancien Testament a écrit concernant les accomplissements humains. Je lis. Nous sommes tous semblables à des êtres impurs. Toute notre justice est comme des linges souillés. Nous sommes tous flétris comme un feuillage. Nos fautes nous emportent comme le vent. Fin de citation. L'expression « linge souillé » est particulièrement violente en hébreu. Je ne veux pas vous faire un dessin et je vous ferai grâce d'une description. Il me semble que les bonnes gens pensent que la justice du Christ est supérieure de quelques crans à la leur. Il n'en est rien. Il est impossible d'établir une comparaison quelconque entre le Dieu trois fois saint et moi-même. Dans ce domaine, il n'y a absolument rien de commun entre nous. Un abîme infranchissable sépare la créature du Créateur. Or, il a décrété qu'il n'accepterait dans son logis le royaume des cieux, que ceux qui auraient une justice égale à la sienne. Je suis donc éliminé au premier tour et sans appel. C'est pourquoi je dois me conformer à ses règles si j'ai l'intention d'entrer chez lui. Or, c'est Jésus et lui seul qui est l'entrée et qui fait le pont. Il le dit lui-même dans l'Évangile selon Jean que je cite. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père que par moi. » Fin de citation. Je continue maintenant la suite du premier chapitre du Lévitique. « Celui qui offre l'Holocauste appuiera sa main sur la tête de l'animal et celui-ci sera accepté avec satisfaction comme victime expiatoire pour lui. Verset 4. Il appuiera sa main sur la tête et le premier acte du sacrifice. L'imposition des mains symbolise le transfert des fautes du fidèle à l'animal. La victime se substitue à l'adorateur. Par sa mort, elle va payer pour les fautes de l'Israélite. C'est ce que veut dire l'expression « victime expiatoire ». L'exemple du jour des expiations, une fois l'an, illustre bien le principe de substitution. Je cite le passage. « Le grand prêtre posera ses deux mains sur la tête du bouc et confessera sur lui toutes les désobéissances, tous les péchés et toutes les fautes des Israélites. Ainsi, il les fera passer sur la tête du bouc. » Fin de citation. Ainsi donc, dans le cas de l'Holocauste, par cette bête qui est entièrement consumée par le feu, l'Israélite se consacre à son Dieu. Mais avant cela, l'animal était mis à mort. Il prenait la place de l'adorateur qui reconnaissait ainsi que c'était lui qui méritait de mourir. Une foi personnelle en la personne du Christ, qui est mort sur la croix, revient à la même démarche que celle de l'Israélite qui posait ses mains sur la victime, s'identifiant ainsi à elle. Cet acte était public. Les Hébreux qui le voulaient pouvaient venir voir qui offrait quoi. Pareillement, le baptême tel qu'il était pratiqué dans le Nouveau Testament est un témoignage devant tous. En entrant dans l'eau puis en ressortant, je confesse publiquement mon identification avec le Christ dans sa mort et résurrection. Je continue le texte. Il égorgera le jeune taureau devant l'Éternel et les descendants d'Aaron, les prêtres, offriront le sang. Ils en aspergeront tous les côtés de l'autel qui se trouve à l'entrée de la tente de la rencontre. Verset 5. Après l'imposition des mains, la mise à mort de l'animal par l'Israélite est le second acte de l'Holocauste. L'immolation est ensuite suivie de l'offrande du sang. En effet, comme le dit si bien le petit poster publié par la Croix-Rouge et qu'on voit parfois sur les voitures, « sang égale vie ». Le prêtre sacrificateur qui avait auparavant constaté l'absence de défaut chez la victime en recueille maintenant le sang dans un vase d'airain et le répand contre l'autel. Il fallait qu'il fût répandu encore chaud contre le pied de l'autel. La première série d'actes, l'imposition des mains et la mise à mort, est assignée à l'Israélite. Les autres, l'offrande du sang, écorcher la victime, la découper, laver les entrailles et les jambes, sont réservés aux prêtres. Dans les textes sacrés et dans le culte hébraïque, le sang aspergé représente toujours la vie ôtée et donc la mort. Il était d'ailleurs strictement réservé à cet usage. Et si vous trouvez que c'est cruel, barbare et pas juste, eh bien je suis entièrement d'accord avec vous. Mais ce n'est pas moi qui ai établi ces règles. Par contre, c'est moi qui suis responsable de la mort de Jésus-Christ. Ça vous choque? Dans le passé, j'ai entendu des arguments qui fusaient concernant les responsabilités des Juifs ou des Romains dans la crucifixion. En fait, ces gens-là étaient des instruments. Certes, mais les vrais criminels, c'est vous et moi. C'est vous et moi qui sommes coupables devant Dieu. Si nos premiers parents, leurs descendants et nous-mêmes n'avions pas commis des fautes de tous ordres, dont la liste est longue et épaisse, Jésus-Christ n'aurait pas eu besoin d'être cloué sur la croix. Je continue le texte du Lévitique. On enlèvera la peau de la victime et on la découpera en ses quartiers. Puis, les descendants du prêtre Aaron allumeront le feu sur l'autel et empileront les bûches sur le feu. Ensuite, ils disposeront les quartiers de viande, la tête et les parties grasses sur le bois en feu qui est sur l'autel. On lavera à l'eau les entrailles et les pattes, puis le prêtre brûlera le tout sur l'autel. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu dont l'odeur apaise l'Éternel. Versets 6 à 9. Tout était fait décemment et dans un certain ordre. L'offrande devait être découpée en ses quartiers, c'est-à-dire d'après la division naturelle des membres dont se compose le corps de la victime. Ce qui veut dire sans briser les os comme pour l'agneau pascal. Les morceaux ne devaient pas être offerts mutilés. Le cœur, le foie, les poumons n'avaient pas besoin d'être lavés, mais il fallait nettoyer les intestins et autres organes de la digestion, ainsi que la partie inférieure des jambes qui pouvaient être souillées de boue. L'expression « un sacrifice dont l'odeur apaise l'Éternel » sous-entend que c'est sa colère qui, à cause de la culpabilité des Israélites, est calmée par la victime qui a été mise à mort. On retrouve cette même expression à propos de beaucoup de sacrifices sanglants ou autres offrandes comme celles de végétaux qui sont consumées en totalité ou en partie. Mais ce qui est consumé par le feu signifie avant tout la consécration de celui qui offre le sacrifice. L'homme ne peut faire parvenir visiblement ses dons à l'Éternel que sous cette forme de la fumée qui monte au ciel. Entendons-nous bien. Ces holocaustes, quels qu'ils soient, ne répondent pas à un besoin de Dieu, mais de l'adorateur. Je continue le texte. Si c'est du petit bétail qu'on offre en holocauste, on apportera un mouton ou un chevreau mâle et sans défaut. On l'égorgera devant l'Éternel du côté nord de l'autel et les prêtres, descendants d'Aaron, aspergeront de son sang tous les côtés de l'autel. On découpera la victime en quartiers et le prêtre les disposera avec la tête et les parties grasses sur le bois en feu qui est sur l'autel. On lavera à l'eau les entrailles et les pattes et le prêtre offrira le tout et le brûlera sur l'autel. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu dont l'odeur apaise l'Éternel. Versets 10 à 13. Donc la même chose est répétée pour le petit bétail qui était offert par ceux qui n'avaient pas les moyens de s'offrir un taureau. Cependant, l'agneau, c'est-à-dire le bélier encore jeune, était la victime pour les deux holocaustes quotidiens, pour celui du sabbat et des grands jours de fête, ainsi que pour d'autres occasions. Le chevreau, c'est-à-dire le bouc, ni tout jeune ni vieux, était prescrit par exemple pour l'holocauste que le grand prêtre offrait pour lui-même. Donc c'était un système fort complexe et contraignant, avec des règles à n'en plus finir. Je continue jusqu'à la fin du premier chapitre. Si quelqu'un offre des oiseaux comme holocauste à l'Éternel, il apportera des tourterelles ou des pigeonneaux. Le prêtre apportera la victime devant l'autel, lui détachera la tête qu'il brûlera sur l'autel. Il fera couler le sang contre la paroi de l'autel. Il enlèvera le jabot avec son contenu et le jettera près de l'autel du côté est, dans le dépôt des cendres. Il ouvrira l'oiseau entre les ailes sans les détacher. Ensuite, il le brûlera sur les bûches placées sur le feu de l'autel. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu dont l'odeur apaise l'Éternel. Versets 14 à 17. La pauvreté n'était pas une excuse pour ne rien apporter à l'Éternel. Les très démunis pouvaient donc offrir des oiseaux. En fait, les pigeons étaient les seuls qui étaient domestiqués. Quant aux tourtereaux, il y en avait une si grande quantité qu'ils formaient la principale nourriture animale des pauvres. Ils se laissaient prendre si facilement qu'ils pouvaient être considérés comme des animaux domestiques. Dans les sacrifices de taureaux ou du petit bétail, l'adorateur, après avoir imposé les mains sur la victime, l'égorgeait lui-même. Puis le prêtre en offrait le sang sur l'autel. Ici, il n'y a pas d'imposition des mains et c'est le prêtre qui décapite l'oiseau avec l'ongle du pouce pour que le sang en petite quantité ne se perde pas, mais coule directement contre l'autel. Le simple Israélite n'avait en effet pas le droit de s'approcher de l'autel. Moi qui n'aime pas chasser, cette affaire me retourne le cœur. Bon, en résumé donc, taureaux, béliers, boucs, tourterelles et pigeonneaux, ces cinq espèces d'animaux étaient admises pour l'Holocauste et figurent déjà dans le livre de la Genèse comme les sacrifices offerts par Abraham et agréés par l'Éternel. Je vais maintenant passer au chapitre 6 et commenter un petit passage qui donne d'autres règles concernant les holocaustes. Je commence à lire. L'Éternel parla à Moïse en ces termes. Transmets ces commandements à Aaron et à ses fils. Voici la loi concernant l'holocauste. L'holocauste restera sur le foyer de l'autel toute la nuit jusqu'au matin et le feu y restera allumé. Versets 8 et 9. Il s'agit ici de l'holocauste offert tous les matins et tous les soirs pour le peuple et qu'on appelait sacrifice perpétuel. La présence permanente d'un animal immolé sur l'autel enseignait d'une part que la culpabilité du peuple était constante, tout comme le besoin d'une expiation afin de couvrir ses offenses, et d'autre part que l'Éternel exigeait de la part d'Israël une consécration totale et permanente. Dans le passage qui suit, des prescriptions supplémentaires sont adressées aux prêtres sacrificateurs. Au dire de la tradition, il y avait sur l'autel plusieurs piles ou foyers distincts, dont l'un était spécialement affecté à la conservation du feu sacré. Je continue toujours le passage du chapitre 6. Le matin, le prêtre mettra ses caleçons de lin et sa tunique de lin. Il enlèvera les cendres grasses provenant de la combustion de l'holocauste sur l'autel et les déposera à côté de l'autel. Puis il changera de vêtements et emportera les cendres hors du camp dans un endroit rituellement pur. Versets 10 et 11. Et sur ces paroles, je finis pour aujourd'hui.